Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est au cours du Festival international du latin grec, organisé par Elisabeth Antebi et dont Jacqueline de Romilly est la marraine d'honneur, que s'est tenue au printemps 2010 à Luxembourg. Ce festival et Canal Académie a rencontré un ami de Cicéron. Mais oui, je ne plaisante pas. L'ami en question est aujourd'hui mon invité pour nous présenter les objectifs et les travaux de cette surprenante association, la Société internationale des Amis de Cicéron, SIAC, qu'on doit pouvoir prononcer, SIAC. Bonjour Philippe Rousselot.
Madame, merci beaucoup.
Je suis ravie de vous accueillir dans le studio de Canal Académie et j'ai grande hâte que vous nous expliquiez à quoi sert la Société des Amis de Cicéron, si ce n'est à regrouper les admirateurs de l'orateur romain. Mais je pense que ça va plus loin que cela.
Ah bah, elle a au moins cette fonction, mais à vérité, c'est une association de loi 1901 qui a été reconnue d'intérêt général très rapidement par l'administration fiscale et qui a maintenant un peu plus de 2 ans d'ancienneté et qui est devenue plus visible grâce à son site internet 8 mois à peu près après sa création officielle. Il s'agit donc d'une association de droit commun, mais qui, par le fait que j'en suis un des principaux fondateurs, est installé en France et donc relève du droit français. Mais s'il avait existé, et ce n'est pas le cas, un droit international ou européen pour les associations, c'est plutôt vers ce cadre juridique que nous nous serions destinés, car la vocation de cette association, comme l'indique d'ailleurs son nom, est d'être internationale et de regrouper à l'échelle mondiale, l'ensemble des personnes qui souhaitent se retrouver sur une plateforme commune, dont la vocation est de parler de Cicéron, de diffuser l'état des connaissances le concernant. Et c'est un site qui s'adresse à tous les publics apprenants, les publics cultivés et curieux, et également les publics plus savants,
les
plus avancés en études, voilà. Les chercheurs en particulier. Donc ce site est en quelque sorte polyglotte. Il est aujourd'hui en 3 langues. Nous avons également une 4e langue, l'espagnol, qui est activée. Les trois langues officielles, si on veut dire, sont le français, l'anglais et l'italien.
Car il y a beaucoup d'Italiens, mais c'est normal, ce sont les descendants de Cicéron.
Voilà, et donc parmi les membres de notre association, presque un gros tiers provient d'Italie. Notre vice-président, Ermano Malaspina, est lui-même professeur à l'université de Turin. Et pour le reste, parmi nos membres, nous avons une grande quantité de Français, ce dont je me félicite évidemment, mais également des gens qui proviennent de tous les horizons européens, Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, mais aussi venus d'autres horizons, des Brésiliens, des Colombiens, des Américains, Japonais, Coréens.
Est-ce qu'ils sont tous professeurs de latin ou est-ce qu'ils sont simplement, ce ne sont pas uniquement des professeurs, je suppose, ou simplement des admirateurs de Cicéron? Quel est leur profil?
Alors, le profil aujourd'hui de l'ensemble de nos membres, il y a, je dirais, à peu près 15% de personnes qui sont des adhérents simples, qui, par sympathie pour notre démarche ou sympathie pour Cicéron, ont décidé d'adhérer et parfois de faire un don. Ces personnes sont qui banquiers, qui étudiants à HEC, qui voilà, médecins à la retraite, etc. Pour l'essentiel cependant, la plupart de nos membres sont dits membres scientifiques, ce sont des chercheurs, éventuellement enseignants également, selon les statuts de chacun. Et c'est plutôt aujourd'hui majoritairement des chercheurs qui adhèrent à notre société pour y contribuer. Et les contributions prennent la forme de textes, prennent la forme du travail laborieux qu'il faut mettre en œuvre pour remplir nos bibliographies et tous ces travaux de fond. Et enfin, pour alimenter notre fonction de plateforme d'information qui est matérialisée aujourd'hui par notre gazette, pour ne pas dire newsletter, hein, dans le vocabulaire
habituel. Gazette,
habituel.
C'est très joli, c'est un côté 19e.
Voilà, charmant. Donc, comme il existe dans toutes les langues, ce terme a été choisi. Et notre gazette est traduite en 4 langues, français, italien, anglais, espagnol. Et c'est un papier d'à peu près 6 pages que nous publions tous les 3 mois et qui est diffusé à nos membres et à toute personne qui souhaite d'ailleurs y accéder et qui fait le point sur l'état des ouvrages qui viennent de paraître, aussi bien dans le domaine pédagogique que dans le domaine très savant, qui fait le point sur les colloques et les séminaires passé ou à venir, etc.
Il y en a beaucoup. Cicéron génère beaucoup de colloques, d'actualités, de dynamisme, de travaux.
Ah, il y a quelques colloques spécialement consacrés à Cicéron, mais
plus largement,
généralement, ce sont les colloques sur la littérature latine ou sur la rhétorique ou sur l'histoire de la République tardive qui sont toujours l'occasion pour les orateurs, un, deux ou trois orateurs par séminaire, de consacrer un travail ou une contribution plus exactement à Cicéron. Quant à la production livresque, elle est considérable. Évidemment, les statistiques sont assez difficiles à certifier, mais je pense qu'il y a environ entre 20 et 30 ouvrages par an de tout niveau qui paraissent sur Cicéron, dans plusieurs langues, sans compter les thèses naturellement. Et en articles, c'est sans doute une quantité à peu près identique. Évidemment, très variable selon les années. Quand un grand livre sort sur Cicéron, il génère plus d'articles qu'à l'accoutumée.
Première petite question, avant qu'on entame justement le fond du sujet. Vous-même, Philippe Rousselot, vous travaillez, on peut le dire, je crois, à la Cour des comptes. Comment en êtes-vous venu à créer une association pour diffuser la pensée et l'œuvre de Cicéron et de la littérature romaine en général?
Alors, à vrai dire, ma situation professionnelle n'a pas grand rapport
avec
cette activité.
Je pense
que s'il y avait eu un autre métier, cette vocation cicéronienne aurait été à peu près la même, puisqu'elle tire vraisemblablement son origine de mon adolescence et de mes études en Cagne notamment, et de la fidélité que je ne saurais pas expliquer de manière très précise la fidélité que j'ai eue vis-à-vis de cet auteur qui m'a toujours beaucoup attiré.
Vous étiez un bon élève en latin.
Oh, je n'aurais pas cette prétention, mais ça m'intéressait beaucoup. J'avais d'excellents professeurs qui d'ailleurs n'aimaient pas du tout Cicéron, et c'est à peu près la seule chose contre laquelle je m'étais élevé dans leur enseignement qui m'a beaucoup apporté. C'était de le trouver finalement beaucoup plus intéressant que eux-mêmes voulaient nous faire croire le contraire. Pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Toujours est-il que je suis toujours resté un fidèle lecteur et que le temps passant, j'ai pris goût et j'ai voulu approfondir ma lecture. Et arrivé à un certain âge, il m'a paru utile en regardant, l'état de la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment construit sur Cicéron aujourd'hui. En prenant en compte le formidable outil que constitue Internet, il m'a paru utile de créer quelque chose. Et au début, j'ai beaucoup hésité entre créer une revue ou créer un site internet. Et sur les conseils de Carlos Lévy, professeur de littérature latine à Paris-Sorbonne, qui est d'ailleurs le président de notre comité scientifique, l'option a été prise de faire un site internet qui a finalement rapidement fonctionné de manière plutôt correcte.
Oui.
À l'évidence, il y a encore beaucoup de progrès à faire au plan technique ou technologique, et sur le contenu, nous nous sommes donné quelques années pour que notre ambition puisse s'afficher de manière manifeste.
On marque une courte pause et on retrouve tout de suite Philippe Rousselot pour évoquer la figure de Cicéron.
C'est en tant qu'helléniste que Jacqueline de Romilly, membre de l'Académie française, s'exprime sur l'Europe. Elle rappelle que la démocratie est née en Grèce, mais aussi que plusieurs grands auteurs grecs ont critiqué cette conception. Elle offre ainsi à notre réflexion sur la question européenne la profondeur historique indispensable. Écoutez Jacqueline de Romilly dans nos émissions en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Avec Philippe Rousselot, président de la Société internationale des Amis de Cicéron, nous allons évidemment évoquer Cicéron. Alors on sait qu'il est né... J'ai repris mes petites fiches en moins 106 avant Jésus-Christ, bien entendu, qu'il est mort en moins 43, exécuté sur les ordres de Marc-Antoine. Pourquoi la figure de Cicéron, grand orateur, fascine-t-elle aujourd'hui?
Ah, ça, c'est une question difficile à laquelle je pourrais essayer de répondre en disant qu'elle fascine différentes catégories de personnes. Si vous êtes un littéraire, vous serez fasciné par son style, la pureté de sa langue, la technique littéraire qu'il a mis en œuvre, qu'il a théorisée d'ailleurs, et dont tout le monde sait qu'elle se résume, pour parler très brièvement, à la notion de rhétorique, dont il était un très grand maître. Si vous avez une sensibilité de philosophe, vous serez davantage attiré par ses traités philosophiques, mais également les vues philosophiques qu'il a pu manifester dans d'autres œuvres, et qui sont particulièrement intéressantes et qui font l'objet, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, d'un grand renouveau, un grand regain d'intérêt. C'est en 1992 que Carlos Lévy, dont nous parlions tout à l'heure, a publié son Cicero Academicus, qui était un maître ouvrage qui présentait Cicéron sous un jour nouveau, montrant à la fois la manière dont il a penser ou repenser l'héritage philosophique grec, mais également la manière dont il a personnellement contribué à enrichir le patrimoine philosophique. Et depuis, de nombreux ouvrages anglo-saxons sont parus sur ce thème. Et pour en rester en France, on peut observer que l'année dernière, par exemple, la revue de métaphysique et de morale, revue philosophique s'il en est, a consacré un numéro spécial à Cicéron, ce qui est en quelque sorte une sorte de victoire pour la mémoire de Cicéron. On peut observer également qu'en 2011, Cicéron sera inscrit au programme de l'agrégation de philosophie, et non, je n'ai pas dit de la très classique, de philosophie, ce qui là encore constitue pour cette dimension philosophique de Cicéron une reconnaissance, je dirais assez neuve et assez nouvelle, qui croit, et qui n'a pas fini de se développer, qui croit depuis environ une vingtaine d'années. Si vous êtes historien ou politologue, vous admirerez, ou en tout cas vous vous intéresserez à Cicéron, en ce qu'il a été un homme politique majeur de la fin de la République romaine. Chacun sait qu'il a été chef de l'exécutif quand il était consul, et tout le monde a entendu parler de la célèbre conjuration de Catilina, contre laquelle il s'était tant opposé. Il ne faut pas oublier non plus que la principale difficulté qu'a rencontrée Cicéron, si on ose résumer les choses à l'extrême, c'est la montée en puissance des hommes forts, de ces grands militaires, de ces grands généraux, qui, s'appuyant sur leurs armées, qui étaient de vraies armées personnelles et professionnelles, prenaient le pouvoir en s'affranchissant de tous les usages et de toutes les procédures habituelles que les institutions romaines avaient prévues, et s'installer progressivement dans une sorte d'autocratie qui pouvait être, dans le cas d'Jules César, une autocratie éclairée, mais qui n'en était pas moins des aveux des institutions républicaines. C'est contre cela que Cicéron s'est toujours battu, fidèle à une vision assez traditionnelle de la République, mais fondée, là encore je résume à l'extrême, sur la notion d'un nécessaire consensus entre les citoyens, entre les différents ordres qui composent une société. Et Cicéron était également le porteur d'une sorte de conception nouvelle de la République. C'est d'ailleurs tout le prix qu'il attachait à la philosophie, à ce qu'il appelait la culture. Je rappelle que le concept de culture est né sous la plume de Cicéron. Et sans doute, de même qu'il existe des despotes éclairés, ce que lui souhaitait voir naître à Rome, c'était une république éclairée, une république dirigée par des hommes capables de prendre le pouvoir par la seule force de la parole et de le rendre à l'heure qui convient, tout en étant les porteurs de véritables vertus philosophiques permettant de diriger la société humainement et, comme il le dit dans De Republica, sans injustice.
À votre avis, Cicéron est-il un modèle pour les hommes politiques aujourd'hui ? Est-ce pour ça que beaucoup, dans le monde anglo-saxon par exemple, le tiennent pour un modèle ? Moins en France, mais on pourrait y revenir.
Oui, en France, en effet, on ne peut pas dire aujourd'hui, et c'est naturellement une partie de notre démarche de pouvoir inverser cette tendance, que Cicéron constitue pour les hommes politiques un modèle. Ça a été pourtant le cas. N'oublions pas que Jean Jaurès était un fin connaisseur et admirateur de Cicéron, ainsi que Léon Blum, pour donner quelques idées ou quelques références déjà anciennes. En revanche, il est certain qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, Cicéron est un personnage anciennement installé dans la mémoire collective. Je rappelle que les pères fondateurs aux États-Unis étaient de grands admirateurs de Cicéron, que les présidents successifs, les quelques présidents successifs, à l'exception de Washington, les premiers présidents des États-Unis étaient tous de fins connaisseurs de Cicéron et ont même écrit des ouvrages le concernant. Les intellectuels américains de l'époque également. Franklin a publié des ouvrages de Cicéron. Et en vérité, cela venait du fait qu'au moment d'écrire la Constitution américaine, au moment de réfléchir à ce qu'était une République fédérale, vous savez qu'il y a eu tous ces travaux très intéressants, évidemment, qui avaient tant émerveillé Tocqueville quelques décennies plus tard, Cicéron était sans doute directement et en même temps par l'intermédiaire de Hume ou de Locke ou de Montesquieu un auteur de référence. Cela s'est installé dans la mémoire collective et au XXe siècle, personne ne l'a oublié.
C'est assez surprenant pour nous ici en France de penser que les grands hommes politiques américains sont des familiers de Cicéron.
Il ne faut sans doute pas aller jusque-là. On peut repérer de temps en temps des hommes politiques familiers de Cicéron. On en repère d'autres qui, sans qu'on en ait de preuves, aujourd'hui en tout cas, lui ressemblent très fortement. ou en tout cas semble s'inspirer
oui.
d'un assez grand nombre de
des noms.
Bien, je pense que Kennedy, par exemple, est quelqu'un qui, sans ressembler à Cicéron en rien, à bien des égards, était manifestement quelqu'un qui avait eu le temps de réfléchir à ce qu'était cette personne. Je rappelle qu'il a écrit un ouvrage qui n'est aujourd'hui plus très connu, je parle de Kennedy, qui s'appelle Profile in Courage, très beau titre, un profil de courage, qui a été traduit en français de manière beaucoup plus explicite sous le titre de Le courage en politique, et qui est un ouvrage qui décrit sous une forme d'exemple tiré du passé ce qu'est le courage politique. Et ce sont à chaque fois des orateurs qui prennent tous les risques, y compris celui de la défaite électorale, pour mettre leurs intérêts personnels ou électoraux entre parenthèses, pour faire valoir de grandes idées ou l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est un modèle qui ressemble assez furieusement, je dirais, à la manière de procéder de Cicéron, qui s'appuyait beaucoup, comme vous savez, sur les exemples du passé. On appelait ça à l'époque les exempla, c'est-à-dire un exemplum, c'est un grand homme dont on retrace assez rapidement la vie et dont on tire un enseignement pour s'y conformer soi-même et pour pouvoir mieux rebondir dans la situation présente. On trouvera sans doute des présidents aux États-Unis qui connaissaient parfaitement bien Cicéron. C'est le cas par exemple de Coolidge, qui est un des présidents américains des années folles. Ce qui est plus intéressant en vérité aux États-Unis, c'est de voir comment la société américaine, par la bouche de ses politologues, ou sous la plume de ses politologues et surtout de ses journalistes, qualifie les hommes politiques américains de cicéroniens.
Ah oui, quand ils sont grands orateurs, voilà. par exemple.
C'était d'ailleurs l'objet de ma petite intervention à Luxembourg, que vous avez cité tout à l'heure. C'était de repérer et de s'interroger sur ce phénomène constant, à vrai dire, qui montre à quel point, dès qu'un orateur aux États-Unis prend une certaine dimension et arrive à gagner, soit une élection, soit résoudre un grand dossier très compliqué par la force du discours, immédiatement comparé à Cicéron. Et il y a d'assez nombreux exemples très intéressants qu'il faudra étudier plus en profondeur pour mieux comprendre la mécanique de ce que l'on appelle la réception d'un auteur. C'est assez intéressant.
Mais Obama, est-ce qu'il est cicéronien?
Obama,
est-ce qu'on le qualifie comme
oui,
cela?
Oui, Obama a été qualifié de cicéronien très tôt, à peine élu, et même avant d'ailleurs, mais à peine élu, de très nombreux articles sont parus dans la presse anglo-saxonne, souvent d'assez bonne qualité, qui ont dressé un parallèle, un bonnet du forme, entre le nouveau président américain et son modèle supposé. Parce qu'en vérité, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit les discours d'Obama ou toutes les notes et articles qu'il a pu écrire dans sa jeunesse, on ne trouve pas de référence particulière à Cicéron. C'est donc un parallèle reconstruit par les journalistes, par les politologues.
C'est une référence qui est présente dans leur esprit
voilà,
en permanence.
Voilà, et qui, en quelque sorte, qualifie Obama en l'occurrence, mais ça aurait pu être Kennedy ou d'autres, par rapport à d'autres orateurs. Par exemple, Clinton n'est pas considéré comme un orateur cicéronien, excellent à bien des égards, mais pas du tout de nature à soulever les foules et à les convaincre. Il était plutôt quelqu'un qui les émouvait.
Alors, au-delà de Cicéron, justement, votre site et votre Société internationale des Amis de Cicéron, vous voulez aussi promouvoir l'ensemble de cette époque de la pensée romaine. Vous n'allez pas, je suppose, vous contenter de Cicéron, vous allez élargir à d'autres auteurs, peut-être.
Alors, en effet, Cicéron est le pivot de notre société. Il est pour l'instant, en l'état actuel de notre site, et je pense pour les années à venir, il constituera le principal de notre effort. Mais à l'évidence, il faut élargir le champ de diffusion du savoir en la matière et faire redécouvrir sans doute au public qui n'en a pas forcément conscience le fait que Rome a été le lieu d'une grande agitation intellectuelle et qui se manifeste évidemment avec des auteurs, certes très célèbres, mais dont il faudra que nous assurions à un moment donné la promotion, tels que Sénèque ou Pline, à l'évidence Tacite ou Salluste, même s'ils n'ont pas la dimension ou la réputation d'être des penseurs, sont les porteurs d'un système de pensée, et ainsi de suite jusqu'à Saint-Augustin, pour faire bref. De plus, nous comptons bien consacrer une grande partie de nos travaux à l'influence ou à la postérité de Cicéron à travers les siècles. Et là, autant vous dire que ce sont des centaines d'auteurs qui seront convoqués et intéressés, puisqu'il a été l'idole, ou parfois le repoussoir, de très grandes plumes. Montesquieu, Voltaire, Rousseau ont beaucoup dit et ont beaucoup à dire sur Cicéron, pour ne citer que cela, bien sûr. Racine, pour remonter un peu dans le temps, ou Jaurès dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est en effet Cicéron qui est au centre de notre démarche, au centre de notre dispositif, mais à partir de lui, nous espérons rayonner, non seulement dans l'espace chronologique de la Rome antique, sans oublier bien entendu l'héritage grec des Romains, héritage qui était parfois contemporain, si j'ose dire, puisque Cicéron a fréquenté les philosophes de son époque, qui font l'objet eux aussi depuis maintenant une quarantaine d'années d'une redécouverte très attentive de la part des spécialistes, et puis donc élargi également à l'ensemble de sa postérité dans tous les pays. Et récemment encore, je discutais avec un de nos collègues sud-coréens qui est en train de travailler, lui, sur l'arrivée de Cicéron en Chine au XVIe siècle. Car le premier ouvrage traduit en chinois par un père jésuite était le livre que Cicéron a écrit sur l'amitié. Et il y a donc, vous voyez, un champ quasi inépuisable de travail à faire autour de Cicéron.
Très bien, je vois que vous aurez une retraite quand vous y serez, car vous êtes encore tout jeune. Vous aurez une retraite fort occupée, donc on peut s'en réjouir, pour mettre au point ce site, pour l'enrichir sans arrêt, parce qu'il est déjà au point, mais il faudra l'enrichir. Et ce site s'appelle tuliana.eu, tuliana.eu. Sur ce site, on peut trouver l'adresse où l'on peut vous contacter, parce que si on est intéressé pour adhérer, pour faire connaître des travaux, pour être informé tout simplement, recevoir cette gazette qui me paraît tout à fait alléchante, eh bien on trouvera toutes les coordonnées pour vous joindre. Merci Philippe Rousselot. Si vous avez un dernier mot à ajouter, vous avez la parole.
Ah, madame, c'est moi qui vous remercie à mon nom et au nom de tous les membres de la société.
Nous étions heureux de vous accueillir. À bientôt.
Au revoir, madame. Thank you.